France Culture.
À plus d'un titre, deuxième partie, bonjour à tous. Et nous allons parler de l'hôpital, sous pression. Avec vous, Nicolas Bellorget, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sociologie, chercheur post-doctorant au centre Maurice Albvax, centre commun au CNRS, à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'École normale supérieure. Et vous publiez aux éditions La Découverte, dans la collection Textes à l'appui, une enquête publiée, donc intitulée, comme je l'ai dit, L'hôpital sous pression, enquête sur le nouveau management public. C'est une belle enquête de terrain.
Merci.
Sur un terrain non pas miné, mais pour le moins complexe et aux enjeux multiples, l'application à l'hôpital des méthodes du nouveau management et de ses outils, indicateurs de performance, benchmarking, ou ce qui signifie évaluation comparative, on le sait, ou encore responsabilisation des professionnels, etc., etc. Pendant 4 ans, vous avez mené cette enquête dans des services de soins, en particulier les urgences, très visées par ces politiques, on le verra, mais aussi dans les services administratifs de l'hôpital, ainsi qu'au sein d'une agence proche du ministère de la Santé, l'AAES, l'agence d'audit des établissements de santé qui intervient dans les hôpitaux et d'une manière ambiguë, comme vous le montrez, est à la fois en charge de construire un diagnostic des problèmes et d'aider ces professionnels, donc d'aider les acteurs de la santé à les repérer et les résoudre, mais aussi d'inciter ces professionnels à appliquer les réformes et la nouvelle gouvernance voulue par le ministère. Cette agence sous-traite des audits à des cabinets de conseil privés, des sociétés de conseil en organisation ou d'audit, où vous avez également mené l'enquête. C'est un petit peu plus compliqué, on verra.
Ouais.
Le résultat donne une vision d'ensemble de ce vaste mécano à la fois administratif et humain qu'est l'application de la réforme managériale aux services de santé, avec une image au résultat, une image nuancée des effets de cette réforme sur les soignants et les patients. Au départ, Nicolas Bellorget, tout est parti de la volonté politique, et c'est pas nouveau, de maîtriser les dépenses de santé.
Oui, 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 tout à fait. C'est une volonté qui est présente en France depuis plusieurs décennies, qu'on peut faire remonter au milieu des années 70 à peu près, quand la crise économique a incité les pouvoirs publics à réduire un certain nombre de dépenses. En fait, ça c'est surtout la toile de fond de l'enquête. Mmh. Moi, ce que j'ai regardé, c'est comment cette volonté pouvait tenter de se traduire en pratique. Qu'est-ce que ça donnait au niveau des services publics que sont les hôpitaux.
Alors, vous êtes fait ethnographe, le mot observation participante revient. Bon, on a vu, le terrain est quand même assez long. Vous y êtes resté longtemps, donc... Et aussi bien, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, donc dans des services d'urgence que dans des services administratifs ou ces fameuses sociétés privées de conseil et d'audit.
Oui, en fait, pour bien saisir le mécano dont vous parliez tout à l'heure, je pense qu'il y a 4 niveaux d'observation qui sont nécessaires. Le premier niveau que vous avez indiqué, c'est ce qu'on appelle couramment les tutelles dans le secteur, c'est-à-dire le ministère ou l'assurance maladie, en gros les organismes nationaux qui donnent un certain nombre d'orientations. Et en l'occurrence, ce sont eux qui impulsent la politique de maîtrise, entre guillemets, des dépenses. À l'autre bout de la chaîne, vous avez, vous et moi, vous avez les patients qui sont destinataires de ces politiques, qui peuvent en être les bénéficiaires ou...
Ou les victimes.
Ou les victimes, selon le point de vue, effectivement, selon les circonstances. Et c'est pour ça que ça me semblait, que ça me semble un sujet qui peut intéresser beaucoup de monde. Les 2 autres niveaux, c'est bien sûr juste au-dessus des patients, ceux qui sont au contact direct de ces patients, donc les personnels de santé, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les agents hospitaliers, ceux qui sont au contact direct des patients, de ce qu'on appelle le matériau humain.
C'est ça.
Matériau aussi difficile.
Vous citez d'ailleurs, à ce sujet, un auteur américain.
Irving Goffman.
Oui, Irving Goffman, et puis également un autre...
Everett Hughes.
Voilà.
Qui se allez-y.
Oui. Non, s'il vous plaît.
qui se demande, c'est lui précisément, Hughes, qui se demande si dans les hôpitaux, il faut dire que les choses sont faites aux patients ou pour les patients.
Donc tout ceci... Il parle aussi du travail du patient.
C'est un autre, oui, c'est un autre, c'est Strauss, qui lui parle du travail que les patients doivent accomplir, puisque pour se faire soigner, on est non seulement un objet passif, réceptacle de ce que font les soignants, par exemple sur la table d'opération, là on est complètement passif, mais il y a aussi beaucoup de cas où il faut être actif soi-même, où il faut coopérer, il faut faire les bons gestes, il faut supporter la douleur. Il faut se préparer aux examens, etc.
Contrôler son propre corps au moment des interactions avec l'équipe médicale ou le fait, à l'extrême, de savoir bien mourir. Voilà.
Absolument.
Donc, vous en parlez dès l'introduction. Parce que les patients ne sont pas oubliés dans votre livre.
Je vous remercie de le souligner. Donc les patients, c'est le deuxième des quatre niveaux dont je vous parlais tout à l'heure. Donc au-dessus d'eux, on trouve les soignants. Donc c'est pour ça que j'ai fait de l'observation dans les services de soins. Mais n'étant pas soignant moi-même, étant complètement dépourvu de compétences infirmières ou médicales, ça a été une observation simple, contrairement au troisième niveau, celui que j'appelle des intermédiaires, où là j'ai pu faire une observation participante, puisque ce sont des corps de métier qui m'étaient plus accessibles en fait.
Donc les gestionnaires ?
Les gestionnaires, les directeurs d'hôpitaux et les consultants. Donc j'ai fait une observation participante parmi les consultants et un petit peu parmi les administratifs qui travaillent dans les hôpitaux également.
Et puis donc au sein de cette agence dont on parlait au début,
l'agence d'audit des établissements de santé.
Voilà. On va se farcir quelques acronymes. Je préviens tout de suite les auditeurs pour commencer. Parce qu'ils sont très, très nombreux dans tous ces domaines.
Ça, c'est le milieu hospitalier qui veut ça. Moi-même, je ne connaissais pas ce milieu quand j'ai débarqué dedans. Et j'ai été écrasé par les acronymes. Mais je pense qu'en les développant, ça devient tout à fait intelligible.
Voilà, d'autant qu'il y a à la fin donc, deux pages de liste de ces acronymes où tout est expliqué. Mais vous le faites aussi chemin faisant, bien entendu. Alors, on le disait, Nicolas Bellorget, cette politique de réduction des coûts à l'hôpital, elle vient prendre sa place dans une politique d'ensemble qui s'appelle la RGPP. On la connaît maintenant. Au départ, c'était plus discret. La révision générale des politiques publiques qui se décline, comme vous le rappelez, dans un nombre croissant de secteurs. Donc, la santé, on va en parler. Les politiques sociales, l'éducation, la recherche, la justice, la police... La défense.
Tout à fait.
Et ça coince, évidemment, dans tous ces domaines, ça coince beaucoup. On va voir comment ça se passe à l'hôpital. Mais je voulais juste, pour commencer, qu'on détaille, comme vous le faites, les outils de ces diagnostics donc, livrés par l'agence. Parce qu'on va aussi apprendre des choses, justement, sur ce côté un petit peu ambigu de la position de cette agence entre l'administration et les hôpitaux, les hospitaliers même plus précisément. Alors le premier outil de diagnostic, c'est le PMSI, le programme de médicalisation des systèmes d'information. Et vous relevez tout de suite d'ailleurs que donc c'est un programme qui pose les bases d'une comptabilité analytique hospitalière, mais qui met en avant, comme on peut l'entendre, programme de médicalisation des systèmes d'information, met en avant donc la médicalisation d'une comptabilité plutôt que la comptabilisation d'actes médicaux. Et c'est significatif justement de cette ambiguïté dont je parlais.
Oui, tout à fait.
Il s'agit de contrer en fait la réaction des médecins, voilà.
Oui, il faut replacer, je pense, cette politique dans le contexte de sa réception, puisque, comme vous l'avez suggéré, les médecins sont assez hostiles à cette mise en chiffres de leur activité, puisque au départ, les médecins étaient vraiment la profession dominante dans le secteur. Ils avaient beaucoup de pouvoir, ils en ont toujours beaucoup, mais celui-ci est mis à mal par ces réformes. Et donc, ce programme de médicalisation des systèmes d'information, on peut bien comprendre son nom, je pense, si on le met face à la volonté qu'avaient les médecins de refuser ce qu'ils appellent une logique comptable. Hein, vous avez ça dans énormément de déclarations d'associations ou de syndicats médicaux, non à la logique comptable. Et donc, le PMSI ne parle pas de comptabilité, il parle de médicalisation de systèmes d'information, alors qu'en fait, au fond, c'est exactement la même chose. Ma position, à moi, n'étant pas de condamner une logique comptable, dans la mesure où tout le monde fait des comptabilités au quotidien sans s'en rendre compte, les médecins également. Je veux simplement prendre mes distances avec ce vocabulaire, qui me semble être un vocabulaire de lutte, d'intérêt...
Oui, puis une sorte de, un peu de novlangue. On en verra d'autres exemples. Il s'agit en fait, voilà, de. Alors, vous montrez d'ailleurs que de ce point de vue-là, il y a eu une évolution du discours, justement, pour se rapprocher des hospitaliers, et que un thème qui est évidemment prépondérant dans l'esprit des soignants, comme celui de la qualité des soins, la qualité de l'accueil, la qualité des soins, qui au départ n'était pas du tout dans les objectifs de cette agence, eh bien, au moins en parole, on a tenté de se rapprocher des médecins en utilisant « il fallait en parler, on en parle ».
Oui, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Parce qu'au début de ma période de présence à l'agence, le mot d'ordre, c'était vraiment pas la qualité, c'était l'efficience. Et oui. le terme de qualité était rarement évoqué. Quand il l'était, c'était toujours pour être repoussé. La qualité étant réputée quelque chose de difficile à cerner, de lointain, de difficilement objectivable. Et en revanche, on réfléchissait davantage en termes de productivité. Bon, ce qui n'est pas absurde, on pourra en discuter. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'au fil des années, le discours officiel de l'agence a évolué pour mettre au premier plan, au contraire, cette question de qualité. Et quand on creuse un petit peu l'origine de cette évolution du langage, ben on se rend compte que c'est une forme de stratégie pour se faire mieux entendre des soignants, pour qui, au contraire, la qualité des soins, c'est quelque chose de très concret et de très important.
Bien sûr. Alors, autre outil de diagnostic, c'est la tarification à l'activité. D'abord le point ISA, l'indice synthétique d'activité, qui j'imagine est déduit justement de cette tarification à l'activité à laquelle on contraint maintenant les médecins.
Oui, alors le point ISA, c'est un petit peu antérieur. C'était dans le cadre du PMSI qui lui a commencé en 1982, alors que la tarification à l'activité, c'est au cours des années 2000, c'est beaucoup plus récent. Mais donc le point ISA, en fait, procède d'une bonne intention au départ. Il cherche à évaluer ce qu'on fait dans les hôpitaux. Il faut rendre cette justice aux réformateurs qu'ils évaluent mieux ce qu'on fait dans les hôpitaux qu'auparavant. Là où c'est plus subtil, je dirais, c'est que cet indice synthétique d'activité, en fait, c'est un indicateur de productivité. Mais, encore une fois, le terme de productivité passe extrêmement mal dans le milieu hospitalier parce qu'il est associé, à tort ou à raison, à la volonté des réformateurs de pressuriser les soignants. Et je dirais plutôt à raison, puisque c'est effectivement leur objectif.
Voilà. Alors, cette tarification à l'activité, elle constitue aussi une sorte de piège pour les médecins, puisque finalement, vous montrez qu'il s'agit, dans le fond, d'outils au résultat, de répartition des crédits. Et c'est une première manière, il y en aura beaucoup d'autres, d'inciter donc les acteurs à coopérer en déclarant leur activité, puisque on fait porter la diminution des budgets sur ceux justement qui ne coopèrent pas.
Voilà, ça,
qui ne déclarent pas leur activité.
Absolument, ça c'est à nouveau une question de stratégie. Ce qui est particulièrement diabolique ou génial, selon le point de vue d'où on se place dans cette histoire, c'est que les réformateurs... alors, à chaque fois que j'utilise ce terme, je l'utilise avec des guillemets pour désigner en fait, le groupe de personnes qui essayent de changer les normes dans le secteur, les façons de soigner, sans dire si c'est bien ou mal.
Vous avez d'autres mots aussi pour distinguer ceux qui marchent dans la réforme, mais chez les soignants, et notamment chez les médecins. Et puis ceux qui résistent, les résistants.
Voilà, je parle. Je parle des convertis et des résistants, voilà. On en parlera tout à l'heure peut-être. Donc ces réformateurs ont mis en place ce dispositif de la tarification à l'activité qui... le problème qu'ils avaient au début, c'était qu'il n'était pas du tout évident que les soignants allaient coopérer avec eux, en leur disant ce qu'ils faisaient. Ça, c'est une très vieille histoire qu'on rencontrait déjà dans l'industrie, dans les années 20-30, au moment où les ingénieurs tentaient de prendre aux ouvriers leur savoir-faire en termes de méthode afin de mieux produire et d'en tirer davantage de bénéfices. Donc c'est un peu la même histoire qui se reproduit dans les hôpitaux, mais afin de mieux connaître ce que font les hospitaliers, les réformateurs risquaient de se... Enfin, en faisant cela, les réformateurs risquaient de se heurter à l'opposition des hospitaliers, qui n'avaient aucune raison de leur révéler leur activité, bien au contraire. Et donc le mécanisme par lequel la T2A s'est mise en place, c'est que ne serait financé les hospitaliers que ceux qui allaient indiquer ce qu'ils feraient. Ils ne seraient financés qu'à hauteur
de ce qu'ils indiquaient,
de ce
qu'ils déclaraient.
C'est une grosse incitation à révéler ce qu'ils faisaient.
C'est ce qui vous fait dire justement que cet ensemble d'outils, finalement, ils ont une grande force pratique. On le verra aussi pour le benchmarking, parce que c'est également appliqué. Alors, d'ailleurs, vous, à propos du benchmarking, vous faites une observation d'ethnologue. Vous montrez, mais ça serait confirmé notamment par des gens qui s'occupent de psychologie du travail, vous faites remarquer qu'en fait, le benchmarking, il existe de fait entre pairs, entre médecins, entre les gens savent bien comment les autres travaillent dans un même milieu professionnel.
Absolument, absolument.
Mais ça n'a pas de valeur pour les gens qui décident de la réforme.
Mais non, parce qu'en fait, ce qu'ils cherchent à mettre en place à travers ce benchmarking, donc non barbare et qui cherche à en imposer en tant qu'anglicisme, pour dire simplement comparaison et émulation par la comparaison, ce qu'ils cherchent à imposer, c'est un renouvellement des critères sur lesquels s'effectue cette comparaison, plutôt que la comparaison elle-même. Puisqu'en effet, entre collègues, entre gens qui font le même travail, on se compare spontanément sur ce qu'on fait. On est un peu au courant, on n'est pas des autistes. Et les réformateurs tentent, premièrement, d'accréditer l'idée selon laquelle les gens ne se compareraient pas, et ce seraient eux qui introduiraient cette comparaison, ce qui est faux. Et ensuite, ils introduisent cette comparaison, enfin, ils introduisent de nouveaux critères pour la comparaison, et précisément des critères de productivité, de production, des critères qui vont dans leur sens, et je dirais, dans le sens de la réduction des dépenses, justement, plutôt que dans le sens de la qualité des soins.
Ouais. Alors, tous ces dispositifs et outils dont on a parlé, le PMSI, la médicalisation des systèmes d'information, l'indice synthétique d'activité, la tarification à l'activité, ils sont reçus comment? Alors, on vous l'avait déjà un peu dit par les soignants, mais ils sont présentés, on l'a vu, sous une forme acceptable, donc en ayant finalement pour objectif ou en se donnant ou en présentant comme objectif la qualité des soins, mais finalement ils sont reçus comment par les praticiens, et notamment dans les urgences, parce que vous montrez que ce type de calcul, sa porte et de comptabilité, ça porte beaucoup sur les urgences et en particulier sur un indice important qui revient tout le temps d'ailleurs, qui est le temps passé dans un service d'urgence.
Oui, un indicateur utilisé par l'AES et les consultants et par un nombre de personnes qui essayent de changer les manières de soigner dans les services d'urgence, c'est le temps d'attente et de passage aux urgences. Donc ça se présente a priori comme un indicateur de qualité, puisque en tant que patient, moins vous attendez longtemps, plus vous êtes content a priori. Mais en pratique, quand on creuse un petit peu les choses, on se rend compte que c'est surtout un indicateur de productivité apparente du travail. Alors, chaque mot est important. Productivité, puisqu'en fait, plus les patients passent vite, plus on peut réduire le nombre de soignants pour un service d'urgence donné. Productivité apparente, puisque les patients passent plus vite, mais ce n'est pas le même travail qu'on fait sur eux. Et en l'occurrence, j'ai trouvé que ça dégradait la qualité des soins, on en reparlera. Et du travail surtout, parce que c'est une façon de mettre la pression sur les soignants. Et pour estimer correctement cette productivité, il faudrait prendre en compte aussi le facteur complémentaire au travail, le capital, c'est-à-dire le niveau d'offre de soins dans le secteur donné, dans le bassin de soins donné. Donc cet indicateur, donc je joue un petit peu double jeu, quoi. Il se présente comme un indicateur de qualité, alors qu'en fait, il sert à autre chose.
Oui.
Et face à ça, les soignants ont des réactions variées. Je dirais que un des facteurs les plus clivants entre eux, c'est leur degré de fragilité, de vulnérabilité. C'est-à-dire que les soignants qui ne sont pas ou peu fragiles, qui ont un bon statut d'emploi, qui ne sont pas inquiets quant à leurs compétences, qui sont de bons professionnels, les meilleurs professionnels sont les plus hostiles à ce type de critères. Parce qu'ils ont suffisamment d'assises pour pouvoir résister à la pression gestionnaire. Alors que les salariés plus fragiles, alors c'est une fragilité qui peut venir de plusieurs sources, les salariés plus fragiles
leur statut éventuellement,
sont plus sensibles à cette pression gestionnaire qui est relayée par leur chef de service, qui risque d'être relayée de plus en plus par des systèmes de rémunération à la prime, de rémunération incitative, eux n'ont pas les assises suffisantes pour résister. Alors, ce sont des questions de statut. Effectivement, ce sont souvent des salariés qui n'ont pas le statut, qui sont plus sensibles à ça, qui s'efforcent de réduire le temps de passage des patients. Ce sont par exemple des stagiaires ou des agents qui sont en CDD, voire en intérim. C'est aussi plus généralement une question d'existence sociale, dans le sens où les salariés qui sont le moins bien reconnus socialement, par exemple ceux qui sont le plus en butte au racisme, peuvent être à la recherche d'une forme de reconnaissance par leur chef, par leur supérieur hiérarchique, par leur travail en fait. Ils ont besoin de se faire reconnaître par leur travail, puisqu'on leur dénie d'autres formes de reconnaissance. Et que ce sont eux, du coup, qui coopèrent le plus. Oui. Et ce qui aboutit à des situations qui sont complètement paradoxales par rapport à ce qu'on pourrait penser spontanément. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont le plus, parfois, soif de justice sociale, qui ont été le plus engagés politiquement à gauche, qui se font le plus le relais de ces réformes qui, sur l'échiquier politique, se trouvent pourtant à l'opposé de là où ils se trouvent eux-mêmes ou de ce à quoi ils aspirent.
Oui, oui. Alors, on parlait justement de la manière dont ces outils, qui sont en quelque sorte greffés sur les ordinateurs, on l'a vu grâce donc à cette politique de médicalisation des systèmes d'information, les agents de l'AES, je finirai par m'en souvenir, les agents les ingénieurs et autres de cette agence, en fait, ils récupèrent les données qui sont disponibles sur les ordinateurs des médecins, des services d'urgence, et vous avez fait comme eux. Vous avez donc étudié par le menu. Il s'agit de Monsieur Driss, donc qui a passé 10 heures aux urgences pour. Alors, c'était pas une occlusion intestinale. Je ne sais plus. Enfin, on avait diagnostiqué d'abord une colite infectieuse ou inflammatoire, éventuellement une péritonite. Enfin bref, il a fallu. Alors donc vous le suivez par le menu et vous pouvez constater le décalage qu'il y a entre les données sur ce passage précis, donc les données reçues et exploitées par les réformateurs, on va les appeler comme ça pour faire plus vite, et la réalité finalement de ce passage qui, selon vous, d'après ce que vous avez observé, s'est passé sans le moindre temps mort. Mais il a fallu faire des examens, il a fallu faire des radios, une échographie, etc.
Oui, tout à fait. C'est l'intérêt en fait de conjuguer des différentes méthodes d'observation, enfin différentes méthodes de recueil des données, c'est-à-dire de faire à la fois de l'observation sur le terrain et d'utiliser aussi des techniques quantitatives. Le passage de Monsieur Driss aux urgences, comme vous l'avez dit, a duré une dizaine d'heures, un petit peu plus, parce que il avait une pathologie difficile à diagnostiquer. Donc qui a nécessité beaucoup d'examens, qui a nécessité le recours à des spécialistes venant d'autres services de l'hôpital. Le diagnostic s'est fait de manière itérative. C'est comme ça que fonctionne le raisonnement médical, hein, sur particulièrement aux urgences. C'est-à-dire qu'on commence par rechercher par rechercher le gros truc. Hein, les urgentistes disent ça souvent. On recherche le gros truc, c'est-à-dire une urgence grave, vitale, qu'il faut absolument et rapidement parer pour sauver la vie du patient. Donc on regarde s'il a ça. Bon, il a pas ça. Donc on refait d'autres examens pour chercher ce qu'il a, etc., etc. Et donc ça peut durer très longtemps. Et ensuite, quand on regarde ce que ça donne dans les systèmes d'information qui sont utilisés d'abord par les urgentistes et ensuite par les réformateurs, eh ben, on a une vision très simplifiée du processus de soins qui en donne une image, j'aurais tendance à dire déformée, une image qui se comprend à la lumière des usages qu'on veut en faire. C'est-à-dire, en l'occurrence, avoir une vision un petit peu résumée de ce qui se passe dans un service d'urgence. Mais du coup, on a l'impression, à la lecture de ces données informatiques, que les soignants ont passé une partie de leur temps à se tourner les pouces.
C'est ça.
Alors que pas du tout, en fait.
Ouais. Alors, par exemple, l'interne qui reçoit ce monsieur Driss, il demande, comme il est un peu incertain de son diagnostic, il demande confirmation à des pairs plus âgés, plus expérimentés, etc. Il va falloir qu'il les trouve. Et l'intervention de ces autres médecins n'est absolument pas prise en compte. N'est pas rentrée dans le compte-rendu, si l'on veut, qu'en a fait le gestionnaire.
Elle est prise en compte à minima. C'est-à-dire qu'il est mentionné simplement qu'il y a eu, sans précision du nombre, consultations spécialisées. Alors que il y en a eu
plusieurs.
Oui, il y en a eu deux ou trois.
Et puis qu'il a fallu les trouver quand même, les médecins.
Qu'il a fallu les trouver, puisque ces médecins venaient
les faire descendre
d'autres services, voilà, les faire descendre de leurs étages. Ouais.
Et de leur position symbolique aussi.
Exactement, ouais. Puisque les urgentistes sont considérés souvent par les autres médecins comme de moindre valeur et qu'ils ont beaucoup de mal à les faire venir s'occuper de leurs patients. Ça, ce sont des histoires de guéguerre interne à l'hôpital, mais qui jouent beaucoup dans la prise en charge des patients. Ensuite, vous avez cité l'interne, puisque une des fonctions des hôpitaux est aussi de former des médecins qui ensuite travaillent dans l'ensemble du système de soins. Ces médecins, pour les former, il faut bien leur mettre des patients entre les mains. Et donc au début, ce sont souvent des internes qui s'occupent des patients, et quand ils sèchent, entre guillemets, ils demandent à un de leurs supérieurs de regarder, mais cela aussi prend du temps.
Voilà. Alors il y a autre chose, c'est qu'en matière de diagnostic, vous apercevez que les rapports de l'agence dont nous parlons, l'agence d'audit des établissements de santé, elle diffuse les informations qui finalement l'arrangent. Dans le cadre des objectifs, justement, de réforme qu'elle se fixe, il y a un moment donné, par exemple, vous apercevez que l'un des éléments de ce diagnostic, c'est que plus l'effectif paramédical est important pour 10 000 passages, moins les temps de passage sont longs, ce qui semble évident. Et ça donne évidemment des arguments aux opposants à cette politique de réforme, ceux qui réclament plus de moyens pour les services d'urgence. Eh bien, à un moment donné, cet élément de diagnostic disparaît. Du rapport. L'idée, alors la question, c'est au bout du compte, sur le patient lui-même, quel est l'effet de cette politique? Vous en parlez. On arrive quand même à des réductions de coûts, en tout cas de temps de passage dans les urgences, assez importantes, mais ça recouvre quoi?
Ça recouvre effectivement des réductions de coûts, qui sont l'objectif des réformateurs. Et par derrière, ce que j'ai trouvé de plus inquiétant, c'est que si les temps de passage se réduisent, c'est au détriment des taux de retour. C'est-à-dire que les patients sont vus plus vite,
ouais.
Mais ils doivent revenir plus souvent.
Voilà. Donc, c'est pas vraiment une réussite, quoi.
Non.
Bon, pour le détail, on a fait qu'effleurer la question avec vous, Nicolas Bellorget, pour le détail tout à fait intéressant de cette enquête. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'hôpital sous pression, enquête sur le nouveau management public. C'est publié aux éditions La Découverte, une enquête donc multipolaire, vraiment, et complète sur cette question. Merci, Nicolas Bellorget. Demain, je m'entretiendrai avec Jean-Claude Merwiger, un historien, d'un ouvrage sur ce qu'on appelle la Rome communale, c'est-à-dire la Rome qu'on connaît peu, l'autre Rome, une époque des Romains à l'époque communale, 12e, 14e siècle, c'est publié chez Talendier. Et Toufik Hakem, en première partie, reçoit Insa Sané pour Daddy est mort, retour à Sarcelles chez Sarbacane. À plus d'un titre, Céline Leclerc, Toufik Hakem, Jacques Munier, à la technique aujourd'hui, Alexandre Dang, une réalisation de Dominique Brifaut. Vous écoutez France Culture, il est 17h.